Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Manifeste, c'est le nom choisi par l'IRCAM, voilà presque 10 ans maintenant pour son festival. Rendez-vous d'un mois, le mois de juin. Il nous ouvre vers l'été, un mois de création musicale, sonore, sous toutes ses formes. Ça commence lundi. Bonjour Franck Madlener.
Bonjour.
Directeur de l'IRCAM. À vos côtés, Yann Marèche, compositeur. Mercredi prochain, à la Cité de la Musique à Paris, on pourra assister à la projection d'un film, Muet, Paris qui dort, de René Clair. Un film de 1924 dont vous avez écrit là ou une musique, on en parlera dans un instant. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et puis dans quelques minutes, on sera aussi avec Maëlys de Kerangal. Son roman Naissance d'un pont a été transformé en musique fiction. On en parlait tout à l'heure dans le reportage de Sofia Anastasio. Transformé par le compositeur italien Daniele Ghisi. Franck Madlener, dans le programme de Manifeste, votre première phrase interpelle, c'est écrit « Le monde d'après s'écrit ici et maintenant ». Manifeste 2021 a été pensé en réponse, sans mauvais jeu de mots, en réponse à ces 14 mois que nous avons vécu.
Non, Manifeste a été écrit avec les gens vivants, les compositeurs vivants, et surtout dans l'idée que la musique est capable de tout inclure. C'est-à-dire que nous avons la musique dans le miroir de l'image, du cinéma, dans le miroir de la fiction, et puis simplement avec elle-même, lorsque un compositeur comme Philippe Leroux se sent une affinité pour l'Ars Nova, la polyphonie, bien c'est la musique dans son propre passé. Donc il y a une puissance du musical, et puis une chose qui me frappe beaucoup, vous savez que le mythe fondateur du Centre Pompidou, c'est la pluridisciplinarité. Alors un mythe, c'est souvent un slogan. Là, nous sommes dans la pluridisciplinarité en acte. Aujourd'hui, à l'IRCAM, des compositeurs, des vidéastes, des danseurs, des plasticiens travaillent ensemble parce que le sonore est devenu une denrée extrêmement précieuse et qui attire tout le monde.
Yann Marèche, on parlait de miroir.
Oui.
Vous, quel miroir vous intéresse ?
Oh, je suis quelqu'un d'extrêmement obsessif sur le musical, justement. Donc pour moi, par exemple, le fait de travailler sur un film a été une expérience unique qui ne s'est pas reproduite, mais qui pourrait se reproduire. Mais c'est vrai que le miroir, la notion du miroir, c'est constamment le rapport de l'écrit de l'intuition et de l'ambition dans la création d'une œuvre. Ça veut dire cet aller-retour permanent entre l'idée et la réalisation. C'est un miroir interne. Je n'ai pas de notion de projection vers l'extérieur.
Comment vous aviez travaillé en 2005 sur ce film Muet ?
De la manière la plus simple possible, regarder le film, en tirer si possible une esquisse formelle et prendre des décisions sur le rapport de la partition par rapport au film. Quel va être le degré d'invasion en réalité, puisque c'est une forme d'invasion. Surtout sur un film muet où le cinéaste ne nous a rien demandé. Donc voilà, j'ai choisi une manière de faire qui est encore une fois un contrepoint musical à la psychologie qui émane des scènes du film, et je suis l'architecture du montage dans ses grandes lignes, plutôt du découpage, puisque je ne suis pas le montage littéralement. Donc je suis en accompagnement, mais jamais en c'est-à-dire j'essaie jamais de me mettre devant le film.
Rendez-vous le mercredi 2 juin à la Cité de la Musique pour ce ciné-concert Paris qui dort avec l'ensemble Court-Circuit dirigé par Jean de Royer. Donc ça veut dire que c'est pas une bande-son, ce sera de la musique vivante avec
Absolument.
La projection en même
Absolument.
Temps.
Absolument, les musiciens sont sur scène et nous avons une partie électronique qui est une partie de travail faite à l'IRCAM en temps réel et aussi avec des sons fixés qui est diffusée en même temps que les instruments, c'est de la musique mixte, oui.
Dans Paris qui dort, il y a des images incroyables de Paris. Paris ne dort pas, c'est un savant fou qui arrête le cours du temps. Et donc évidemment, comme on sort du confinement, je pense que le film, il a une espèce d'urgence et d'actualité plus forte que jamais.
Absolument. C'est même Peter Sandy qui a remarqué que les images de Paris dans Paris qui dort étaient similaires à celles que nous avons vécues dans le premier confinement,
oui.
À savoir des rues désertes.
Tout à fait.
Et une vision d'une chose qu'on ne reverra peut-être plus jamais.
Programmer Franck Madlener... une création de 2005. C'est pas très courant. Souvent, il y a des créations et puis hop, elles sont mises dans une boîte, on range ça ou parfois à la poubelle. Et plus jamais on entend les œuvres d'il y a 5, 10, 15 ans. Il y a cette volonté aussi dans Manifeste de reprogrammer ce qui a été créé il y a quelques années.
Absolument, je crois que la notion de répertoire qui est si courante dans la musique classique est indispensable à la musique de création. Et donc nous allons présenter des grandes œuvres qui font jalon, qui cassent l'histoire parfois, qui provoquent. À titre d'exemple, le festival s'achève le 30 juin par Répond de Pierre Boulez, qui est une œuvre évidemment liminaire, puisque finalement dans Répond, quand apparaissent les six solistes à la périphérie, quand apparaît l'électronique, vous avez un effet de tressaillement. Vous avez vraiment l'impression que le temps s'arrête, et c'est en fait la naissance, ou la rhétorique, la naissance de l'électronique en face de vous, ici et maintenant.
Répond, c'est du répertoire maintenant ?
Alors, du répertoire, c'est beaucoup dire, parce que ça demande beaucoup de force, des virtuoses, un lieu qu'on doit installer. Mais par exemple, Anthème, qui va être joué avant Répond, l'autre œuvre de Pierre Boulez, dans une création posthume, puisque finalement ce sera une version d'alto, électronique, qui n'a jamais été encore donnée, Anthème est devenue une pièce de répertoire. Aujourd'hui, c'est plus toute une affaire d'adjoindre de l'électronique avec un instrumentiste ou une instrumentiste.
Yann Maresche, Paris qui dort, la musique, on n'a pas le temps de la découvrir mercredi, mais en revanche, on parlait de réécouter ce qui a été créé il y a quelques années. Je propose d'écouter un extrait de Réplique et puis on en parle juste après. C'était en 2016 à l'auditorium de Radio France, la création à Manifeste de Réplique de Yann Maresche avec Nicolas Tulliez à la harpe, l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Julien Leroy. Yann Maresche, quelques mots de cette œuvre qui a 5 ans et qui donc continue de vivre le matin ici sur les ondes de France Musique.
Oui, c'est une des œuvres que j'ai eu la chance de pouvoir réaliser à l'IRCAM aussi, puisqu'il s'agit là d'un concerto pour harpe et d'un concerto pour une harpe augmentée, c'est-à-dire un instrument dans lequel est placée une technologie de diffusion du son qui nous permet d'utiliser la caisse de résonance de la harpe comme de haut-parleur. Et donc, voire même de transformer le timbre de la harpe via la transformation des modes de résonance de la table, avec une technologie qui est maintenant assez connue. Donc voilà, c'est encore un travail acoustique et électronique dans le cadre d'une musique d'orchestre. J'avais l'ambition d'écrire de l'électronique avec de l'orchestre, mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait probablement trop peu de place pour l'électronique. Et le concerto a été ma réponse à ce problème.
Réplique de Yann Maresch avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Julien Leroy à réécouter sur francemusique.fr car vous pouvez sur notre site piocher, il y a des centaines, des milliers d'heures de musique, de création de ces dernières années. On est avec Yann Maresch, le compositeur, et Franck Madlener, le directeur de l'IRCAM. Franck Madlener, vous en avez parlé tout à l'heure. Ici, on est dans ce qu'on pourrait appeler la musique pour la musique. Il y a aussi la musique pour l'image, la musique pour la fiction. Il y a beaucoup d'échanges avec le cinéma, la littérature, les arts plastiques, la danse également, dans ce festival manifeste. C'est au cœur de cette édition. Est-ce que c'est un choix de votre part ou c'est une tendance naturelle de la création musicale?
Il y a une véritable tendance. Il y a, alors, une bonne nouvelle du jour, c'est qu'il y a un appétit pour le sonore de toutes les disciplines. Donc il faut arrêter de considérer la création musicale et sonore comme la parente pauvre. Au contraire, elle attire de plus en plus. Il suffit d'aller dans des biennales d'art à Venise, vous voyez que les plasticiens parlent du sonore. C'est pas encore la musique, mais ils parlent du sonore. Et donc nous avons par exemple établi pour les jeunes, parce qu'il y a aussi la force d'une nouvelle génération, établi un atelier commun avec l'École des Beaux-Arts de Paris pour se dire, très bien, vous voulez aborder le monde sonore, partageons les outils, partageons les pratiques, puisqu'un musicien n'est pas exactement un plasticien. Donc je crois beaucoup à cette inclusion par la musique de la fiction, des arts visuels, mais en même temps, je continue à dire, et nous continuons à dire avec les compositeurs, qu'elle se suffit à elle-même, qu'à un moment donné, elle a un effet de réel, elle a une puissance qui est à nul autre pareil.
Manifeste, alors on vous a déjà posé la question, pourquoi ce mot-là, c'est un rendez-vous politique aussi?
Alors, le manifeste, c'est évidemment un moment historique au XXe siècle. Il y a eu des manifestes futuristes, des manifestes. C'est une façon de dire la musique dans le concert des autres disciplines. C'est une façon aussi de dire que la recherche n'est pas un vain mot, que le temps que prend un artiste à fabriquer, à maîtriser quelque chose est absolument utile et qu'il n'y a pas d'innovation sans ce temps de recherche. Voilà, c'est quelque chose qui est au-delà du consumérisme et qui en même temps est un véritable plaisir. Parce qu'à la fin, il faut arrêter de dire « vous devez écouter la musique contemporaine, nous devons créer des œuvres ». Non, il y a un désir et un plaisir à entendre des mondes nouveaux ou à retrouver à nouveau. Lorsque Bernard Lang, pour la première fois, débarque à l'IRCAM et dit « moi je vais faire un effet de miroir, une galerie des glaces avec quatre voix, une guitare et je veux m'emparer de Palestrina », eh bien il propose quelque chose qui a à voir avec le passé et avec le futur.
Bernard Lang, si on écoutait un extrait justement de cette pièce...
Le stade du miroir, la scène du miroir.
Mirror Stage, voilà. Game 245. Madlener, qu'est-ce qu'on entend ici?
Alors, vous entendez Lacan qui vient vous psychanalyser. Donc, comme un chaman, il apparaît à la fin de cette pièce, ce stade du miroir. Vous savez que le stade du miroir, c'est le moment où vous, enfant, vous vous reconnaissez comme un tout, comme un moi. Et donc, il y a ce jeu de miroir. Le public va être plongé dans une black box avec des lumières. Et cet effet d'immersion est créé par, notamment, le dôme ambisonique.
Rendez-vous les 1er et 2 juin à 19h au 104 oui. Paris. Le miroir, et d'ailleurs, si on nous reproche d'être trop parisien, maintenant tout le monde peut le voir sur manifeste.ircam.fr. FR. Il est 8h45.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Franck Madlener, Yann Maresch, on vous retrouve dans quelques minutes, mais nous sommes en ligne ce matin avec l'une des grandes écrivaines françaises, Maëlys de Kerangal. Bonjour.
Bonjour.
Canoë, c'est un recueil de nouvelles, des récits autour de la voix humaine. Il vient de paraître aux éditions Verticales, mais ce n'est pas de ce livre que l'on va parler ce matin. Maëlys de Kerangal, vous participez également au festival Manifeste, ce sera fin juin, les 25, 26 et 27 juin, au Centre Pompidou à Paris. C'est dans le cadre des musiques fiction. Alors ce n'est pas vous qui avez inventé ce nom, cet objet artistique, mais comment vous le définiriez-vous maintenant que vous êtes dans cette histoire ?
Je le définirais comme la version peut-être sonore de ce roman Naissance d'un pont. J'ai eu le sentiment tout de même que c'était une autre œuvre qui était créée, c'était une nouvelle œuvre, c'est-à-dire presque plus qu'une adaptation, il y a vraiment une recréation, parce que le livre a donné lieu déjà à une forme de découpage. Certains extraits, il y a eu un choix qui a été fait dans le texte, un choix d'extrait, et puis après il y a tout un travail de mise en voix et aussi évidemment d'une création musicale. Et j'ai vraiment le sentiment à l'écouter que j'étais immergée dans la matière sonore de ce texte et qui m'apparaissait à la fois comme autre chose, une autre œuvre, et en même temps je reconnaissais aussi la mienne. Enfin, c'était une expérience assez riche pour moi.
Donc cette musique fiction, c'est votre roman Naissance d'un pont qui devient un objet musical. Comment vous avez travaillé avec le compositeur, par exemple, Daniel Aiguizi ?
J'ai pas vraiment travaillé avec eux. J'ai assisté à des séances d'écoute. Je crois qu'ils ont été, l'équipe de l'IRCAM a adapté très librement ce texte, avec donc Emmanuel Zoll, je pense à l'édition, Daniele à la composition, et Jacques Vincel et les acteurs aux voix. J'ai été, si vous voulez, associée, ça a été un plaisir, à l'écoute et donc à la progression aussi de la manière dont le projet avançait. Je suis allée plusieurs fois à l'IRCAM. Pour moi, c'était aussi une façon plutôt d'accompagner ce qui était fait par cette équipe, plutôt que de travailler vraiment à ce qui était quand même leur œuvre. C'est vraiment leur création.
Quand on vous a proposé ce projet, comment vous avez réagi ? Ça vous a surpris, étonné ?
Ça m'a surprise, mais néanmoins, ce texte raconte la construction d'un pont dans une ville imaginaire. C'est un texte qui est déjà à l'écriture. En tout cas, moi, quand je l'écrivais, il y avait une espèce de bande sonore quand même, je pense, dans mon esprit. Et puis, j'espère qu'elle se retrouve aussi à la lecture. Et je voyais bien le potentiel sonore du livre. Mais en revanche, je voyais l'idée que ça devienne une musique, que ça donne lieu à une création musicale. Ça m'a vraiment étonnée et ça m'a enchantée. Vous voyez qu'il y ait justement un compositeur qui essaye à la fois de retranscrire peut-être la matière sonore du livre, cette espèce de musique aussi qui touche à la littérature, au rythme, au souffle, aux intonations, aux tonalités, mais aussi aux thèmes explorés. Donc voilà, que ça donne lieu à une création musicale, j'ai trouvé ça extraordinaire.
La musicalité qui est une dimension qui vous soucie aussi quand vous écrivez. Vous lisez par exemple à voix haute quand vous écrivez au moment de l'écriture ?
Oui, j'ai un travail littéraire qui est quand même marqué par l'intérêt et l'attention à l'oralité. La ponctuation a été très centrale dans mon travail. Justement, la question du rythme, de la cadence, du souffle, c'est des réglages qui sont parfois assez millimétrés parce que j'ai une phrase assez longue souvent. Et c'est vrai que j'essaie toujours de stabiliser le texte à l'oral et du coup je le lis à voix haute et j'aime l'entendre. C'est une façon d'écrire à l'écoute, d'écrire à l'oreille, et ça inscrit quelque chose d'assez particulier, je pense, dans mes textes. Enfin, le fait qu'on sente quand même cette présence de l'oralité.
Ça vous a donné envie d'autres créations, éventuellement en musique avec vos textes?
Oui, pour moi, l'accès à la musique est quelque chose d'assez merveilleux aussi, parce que c'est un monde. Moi, je suis pas musicienne, mais je reconnais que la musique exerce quand même une sorte de fascination, et surtout dans la composition, vraiment. Et c'est vrai que c'est une expérience vraiment étonnante, et j'ai vraiment l'impression que il y a cette joie quand même d'inspirer des artistes, enfin que mon travail puisse inspirer d'autres artistes. C'est vrai que je trouve que c'est une chance, et c'est aussi une façon de montrer que le texte peut se reconfigurer dans d'autres arts, dans d'autres médiums, etc. Et je trouve que la musique a un statut évidemment particulier. Et le travail de Daniel Aiguizi est, je trouve, complètement étonnant, enfin, vraiment extraordinaire. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est de reconnaître à ce point mon travail, ou en tout cas des accentuations de mon travail, dans une recréation totale, en fait.
Merci, Maëlys de Kerangal. Naissance d'un pont, la musique fiction, ce sera les 25, 26, 27 juin au Centre Pompidou à Paris. Et c'est à écouter dans des conditions particulières, sous un dôme ambisonique. On va quand même en écouter un extrait. Ce matin.
Ils sont complètement spatialisés.
Là, on va juste écouter en stéréo, mais c'est pas mal aussi sur France Musique. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Le froid gaine la ville. Les hommes s'activent et le pont augmente. Auprès des énormes piles qui sont à présent comme les deux chevilles indestructibles de toute cette histoire, de longues digues de béton renforcent désormais les berges. On y décharge les métaux, acheminés par voie ferrée jusque sur la plateforme Ponto Verde, puis transportés là sur des barges dotées de brise-glace.
C'est la phase 2 du chantier. On bascule en hauteur, on colonise le ciel. Diderot, en grande forme, lève son verre à la cantonade lors d'un pot organisé sur l'esplanade. Vœu de nouvel an formulé in extremis le 30e jour de janvier.
Autrement dit, fini les trous, les excavatrices et les explosions. Terminado le fonçage et le déroquetage des sols. Voici venu le temps des grues et des flèches.
Le temps des... Les voix de plusieurs comédiens dans cette naissance d'un pont, musique-fiction... Les mots de Maëlys de Kerangal, la musique de Daniel Guizy à découvrir fin juin dans le cadre du festival Manifeste. C'est à Pompidou, Franck Madlener. Et c'est, on l'a dit, immersif avec ce dôme ambisonique, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Il y a beaucoup de concerts, de créations avec ces dispositifs-là, de plus en plus également à Manifeste et de façon générale.
D'une façon générale, de penser l'immersion, vous êtes vraiment plongé dans un univers. Là, en plus, cet univers, c'est la construction d'un pont dans la ville de Coca. Et vous avez donc une grande fresque et petit à petit des individus, vous les avez entendus, qui s'expriment. La puissance incroyable de la musique de Guizy, c'est d'être capable en 2 heures de créer ce monde électronique tout en laissant le texte intelligible. Et donc ce rapport entre la dramaturgie du son et l'intelligibilité du texte qui est fabuleux. C'est mieux que tous les livres audio qui ont été créés. Et nous, ce que nous allons faire dans l'avenir, c'est d'abord reprendre ces pièces. On parlait des reprises. Il y aura un dôme mobile que construit l'IRCAM de façon à pouvoir les présenter dans différents lieux. Tout le monde n'a pas sous le pied 64 haut-parleurs. Et donc ce sera une façon de se dire, voilà, vous entrez dans un univers littéraire, lyrique, et qui devient physiologique. Et le pouvoir de la voix est exceptionnel dans ce contexte.
Yann Maresch, cette dimension immersive, ces dômes, ces 64 haut-parleurs, c'est des choses qui vous intéressent ou c'est pas du tout votre truc?
Alors, c'est intéressant parce que ça m'intéresse, mais je prends le contre-pied exactement opposé, puisque je travaille sur l'idée d'une diffusion dans un point localisé de l'espace par une boule de haut-parleurs qu'on appelle la Timée ou maintenant l'ICO, qui est une sorte de forme avec une vingtaine de haut-parleurs qui permet de diffuser le son contre les parois des murs et qui recrée la spatialisation par l'espace dans lequel le son se diffuse. Donc je fais une sorte d'ambisonique portable et beaucoup moins cher. Mais voilà, c'est juste une contre-proposition technologique pour un effet certes un peu moins immersif, mais tout aussi étonnant, puisque c'est la salle qui sonne et qui renvoie la perception de la localisation spatiale.
Yann Maresch, ces 12, 14 derniers mois, vous avez écrit, créé, vous qui aviez été muet pendant plusieurs années, vous n'aviez pas écrit, je crois, de 2006 à 2013, quelque chose comme
exactement.
Ça.
Exactement, oui, j'ai eu une pause de quelques années, effectivement, et... Oui, j'écris justement une pièce pour Jean-François Esser, pour piano et dispositif ICO, donc de spatialisation qui est localisé. Ça fait donc un duo pour piano et cette boule de haut-parleurs. Je travaille aussi sur un concerto pour violon à venir pour Renaud Capuçon et une œuvre acousmatique pour le Familistère de Guise, qui est un projet absolument fantastique qui sera donné au mois de septembre pour la journée du patrimoine.
Pour finir, Franck Madlener, ce manifeste, il y a des compositrices, des compositeurs, beaucoup de créateurs qui sont programmés, jusqu'à Pierre Boulez, on l'a évoqué. Beaucoup de jeunes musiciens, jeunes créateurs, c'était une volonté de votre part? C'était aussi vu les circonstances?
Oui, absolument. Je pense que c'est la jeune génération qui est capable de parler en son nom propre, de larguer l'autorité des anciens, comme la génération de Yann a pu larguer les prédécesseurs, c'est important. Je trouve ça, et en même temps, de pouvoir présenter certaines œuvres qui marquent et qui doivent être écoutées live, voilà, et qui ne sont pas simplement écoutables sur des CD ou à la radio, et qui ont absolument besoin de l'expérience du concert ou du spectacle vivant.
Allez, on se quitte avec, on le disait, il n'y a pas que la création, il y a faire revivre.
Tout à fait.
C'est important ce qui a eu lieu il y a quelques années. C'était en 2019, donc le précédent festival, vrai festival manifeste avec du vrai public. La musique de Franck Bedrossian avec l'ensemble intercontemporain dirigé par Mathias Pincher. Manifeste, ça commence lundi. Les micros de France Musique seront présents et c'est tout au long du mois de juin. L'été arrive. Voilà, et nos invités ont déjoué le piège que nous leur avions tendu. C'est évidemment pas la musique de Franck Bedrossian, mais celle de Lindbergh avec l'ensemble intercontemporain dirigé par Mathias Pincher au programme de Manifeste qui commence lundi. Merci à tous les deux. Demain, nous serons en direct de Nantes. C'est la folle journée. Nous serons avec Alain Surance, le directeur d'Angers Nantes Opéra, avec la maire de Nantes, Johanna Roland, avec la pianiste Claire-Marie Le Guay et le violoniste et chef Daniel Cuillet. Merci à Frédéric Kiefer du tout, Diego Aclopès, Marion Guimet, Margot Muller, Florian Henault, Lara Castiglione, Taïsia Froidure et Yacine Bouzard. La réponse à notre jeu, il y a une heure, nous écoutions une musique de 1932, celle de Francis Poulenc. Ils sont toujours au cœur de la création musicale. Voici Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulbier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour Jean-Baptiste.
Nous, c'est le dimanche, la création musicale. Mais pas seulement quand même, hein, parce que parfois, on vous présente aussi quelques œuvres de notre ampiste. On va vous emmener en Espagne pour faire plaisir à Rodolphe et à tous les auditeurs, peut-être à vous aussi. Est-ce que vous aimez l'Espagne, Jean-Baptiste?
J'adore l'Espagne, l'Andalousie.
Ah, vous, oh là,
Rodolphe.
Ah, bah, on partage.
Si on faisait une grande fête de France Musique en Andalousie, j'ai l'impression que ça ferait plaisir à tout le monde.
Bonne idée.
Voilà, on va organiser ça.
On va en parler à la direction,
mais je pense qu'elle sera d'accord.
À demain.
À demain.